Les orages maléfiques, chapitre 14. Conformément à la saison, Dame Nature avait recouvert la France d'un manteau blanc. Demain, des millions d'enfants ouvriraient fébriles leurs cadeaux. Comme d'habitude, le Père Noël se montrerait généreux pour le bonheur des petits et des grands. Cette année, le repas de réveillon se déroulait chez le fils aîné, le précédent ayant eu lieu chez les parents. Rindra s'attelait à la tâche depuis plusieurs jours. Elle avait promis de confectionner des plats traditionnels malgaches. Les préparatifs allaient bon train et elle chantonnait dans sa cuisine en assaisonnant le poulet et le riz. Elle s'était procuré des épices en provenance du pays. Elle voulait réussir son entreprise afin de prouver à ses beaux-parents qu'il existait d'autres spécialités tout aussi respectables que celle de la patrie de son époux. Ils arrivèrent en début de soirée. Avec les intempéries, le voyage s'avéra plus long que prévu. Les chasse-neige s'efforçant de se frayer un passage au milieu des poids lourds en perdition. Ils purent discuter tout à loisir de sujets divers. Cela leur permit de parler de thèmes qu'ils n'abordaient pas habituellement. La situation des jeunes vint tout naturellement sur le tapis. L'aîné, marié depuis plus de 5 ans, ne paraissait pas pressé de leur offrir des petits-enfants à cajoler. Il montrait même une grande indifférence lorsque quelqu'un y faisait allusion. Il évacuait par une pirouette en répondant que Rindra et lui s'entraînaient à foison. Cela ne dupait pas papa et maman. Ils percevaient un souci bien plus important derrière ce comportement de façade. L'apéritif se déroula en même temps que l'ouverture d'une bourriche d'huîtres. C'était la première exception au repas malgache. La seconde étant le foie gras au torchon, confectionné par le maître de maison. Le plus jeune fils râlait en ouvrant les coquilles. Il s'exécutait à la demande de son frère, mais n'y trouvait pas son compte, car il n'aimait pas ces bestioles gluantes. Il se piqua les doigts par 2 fois, et réussit cependant à finir sa besogne sans plus de bobos, ce qui ne fut pas un mince exploit à ses yeux. La soirée fut une succession d'échanges de banalités. Une sensation diffuse de malaise régnait, chacun restant en retrait dans la conversation. Rindra s'était surpassée et reçut les félicitations de l'assemblée. Elle semblait recevoir ses éloges avec beaucoup de détachement. Nul ne savait si elle appréciait les compliments. Elle répondit simplement qu'elle avait fait ce que les femmes malgaches accomplissaient depuis des générations. Personne ne se risqua à répliquer. La teneur de ses propos laissait entrevoir une fêlure, mais aucun n'osa pousser plus loin l'investigation. L'interprétation resta à la discrétion de chacun. La discussion se déplaça sur le terrain de l'automobile. L'aîné fit part de sa dernière acquisition. Il venait de commander un cabriolet d'une marque japonaise. Le père lui rappela les rigueurs du climat qui ne lui permettraient pas un usage fréquent du véhicule. Il n'entreprit pas de lui dire qu'à ses yeux, ce type d'achat ne représentait que le caprice d'un frimeur. Cela aurait mis le feu dans la demeure. L'atmosphère transportait suffisamment d'électricité sans en rajouter davantage. Il pensait différemment. Son fils échafaudait de multiples combines qui faisaient souvent froid dans le dos. La voiture décapotable se rajoutait à une liste impressionnante de lubies vite remplacées par d'autres tout aussi farfelues. L'engin séjournerait dans un box de l'entreprise pendant la mauvaise saison. Il avait obtenu l'accord de son patron. Tout se passait au mieux dans le meilleur des mondes. L'instant des cadeaux arriva. Des vêtements pour les uns, des disques pour les autres, sans oublier de bonnes bouteilles qui seraient ouvertes au Noël suivant. Cela ressemblait plus à un passage obligé qu'à un réel moment de bonheur. Chacun ouvrait ses paquets et remerciait gentiment les donateurs. À 1 heure, tout le monde rejoignit Morphée, avec le sentiment d'avoir accompli son devoir. Les parents eurent de la difficulté à trouver le sommeil. Ils étaient préoccupés par l'attitude de leur fils aîné et de sa femme. Ils se rendaient compte de l'étrangeté du comportement du couple. Ils brûlaient la vie par tous les bouts et n'attachaient de l'importance qu'à l'aspect matériel des choses. Ils savaient qu'un jour, le constat serait amer pour ceux qui se réfugiaient dans cette superficialité. Un enfant pourrait leur donner un but et une autre vision du monde qui les entoure. Quelques embrassades, puis il fallait affronter la grisaille et la soupe des routes enneigées. Ils parlèrent peu pendant le voyage. Leur préoccupation commune se réfugiait dans un silence pesant. Temps à autre, ils échangeaient quelques mots, mais gardaient l'essentiel dans leur cœur. Ils convinrent que le soleil n'entrait plus dans le nid du jeune couple, et ce manque leur glaçait le sang. Ils ne comprenaient pas l'origine d'une telle situation, et culpabilisaient en se disant qu'ils n'y étaient pas étrangers. La météo leur joua un tour dont elle a le secret. Une tempête de neige s'abattit sur la région. Il ne dit rien de son pressentiment à son épouse, car il était persuadé que cette tourmente hivernale annonçait le début d'autres orages maléfiques. Lorsqu'ils pénétrèrent dans leur logis, le froid ne les épargna pas. Le climat polaire s'était installé partout, au propre comme au figuré. Il leur faudrait un long moment pour se réchauffer et tenter d'accepter la réalité. Heureusement, leur amour ne faiblissait pas. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble, ils affrontaient les coups du destin sans jamais courber les chines. Sa douce compagne reprit le travail. La trêve des confiseurs prenait fin. Il allait se retrouver à nouveau seul, face à lui-même, à ressasser leurs soucis. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal pour en arriver là, mais n'obtenait jamais les réponses satisfaisantes à ses interrogations. Les journées s'écoulaient et il mit ses questions au deuxième plan. Le printemps s'annonçait enfin.